France Musique. Tour de chant, Martin Penet.
Aujourd'hui, Jean-Noël Jeanneney et François Morel, seconde partie. Cette semaine, Tour de chant aura encore une saveur un peu particulière avec deux invités de marque, déjà reçus la semaine dernière, Jean-Noël Jeanneney et François Morel. Vous semblez de prime abord bien différents tous les deux, mais vous êtes en réalité reliés par un même amour de la chanson et un travail commun que nous allons évoquer cette semaine. Je suis donc ravi de vous recevoir tous les deux sur France Musique pour une rencontre placée sous le signe de l'amitié et de la chanson. Bonjour.
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 Alors, ce qui a suscité l'envie de faire cette émission maintenant, c'est d'une part la carte blanche qui vous sera donnée, François Morel, prochainement à la Scala, boulevard de Strasbourg, à Paris 10e, du 14 mai au 23 juin prochain, pour une reprise de trois de vos spectacles les plus marquants parmi les derniers. Et d'autre part, la publication il y a quelques mois aux éditions des Équateurs d'un ouvrage insolite, Chansons pour mémoire, réunissant 18 textes de chansons signés Jean-Noël Jeanneney, mis en musique par Antoine Salaire et interprétés par plusieurs comédiens. Alors, ces chansons Jean-Noël Jeanneney ont d'abord été créées sur scène lors d'une soirée amicale donnée il y a 2 ans au Théâtre de l'Alliance Française et puis, on l'espérait, finalement publié à l'automne dernier aux éditions des Équateurs et enregistré par des comédiens-chanteurs de plusieurs générations.
Comme historien, je m'intéresse beaucoup à la part de hasard dans les destins individuels et dans le mouvement de l'histoire des peuples d'ailleurs. Qu'est-ce qui serait passé si je n'avais pas été dans le train retour d'un festival à la Charité-sur-Loire, consacré aux mots, par hasard à côté de François Morel, nous ne nous connaissions pas. Je n'aurais pas eu l'occasion de lui dire que je me risquais à faire des paroles depuis quelque temps, de chansons possibles, que je cherchais un musicien, on peut toujours rêver. Et avec une espèce de spontanéité aussitôt amicale, il m'a dit « mais j'ai quelqu'un pour vous, c'est mon ami Antoine Salaire, mon musicien ». Et puis il savait que j'étais de Franche-Comté, il m'a dit « vous êtes de Haute-Saône, il est du territoire de Belfort, vous devriez vous entendre, vous savez, comptoir, rentois, nenni ma foi ». Effectivement, on ne s'est pas rendu à quoi que ce soit comme obstacle, et nous avons fait presque aussitôt amitié, complicité, et pour moi c'était un exercice tout à fait nouveau, et comme dans ce cas toujours, un sujet de grande satisfaction, un sujet de bonheur véritable. J'ai fait un peu de théâtre, mais c'est un autre plaisir. Je suis historien, donc j'ai écrit beaucoup, comme il est naturel et universitaire, de livres avec des notes en bas de page, très sérieuses, je crois. Mais j'ai toujours trouvé que notre rôle en tant qu'historien pouvait être d'aller chercher d'autres chemins pour toucher un public et qu'on pouvait combiner par là l'avantage de les atteindre et le plaisir, je dois dire, de jouer d'une autre corde, si je peux prendre une métaphore musicale. Et c'est ce que j'ai fait avec cet ensemble. Évidemment, vous y trouverez néanmoins des relents de ma tâche d'historien, puisque c'est beaucoup, et c'est pour ça que nous avons appelé ça ensemble Chansons pour mémoire, c'est beaucoup une réflexion sur le temps. Mais la semaine dernière, nous avons entendu beaucoup de chansons de François Morel, qui lui-même, bien qu'il ne fasse pas absolument étalage d'une profession d'historien, construit sur ce rapport entre le passé et le présent. Et c'est notre affaire, c'est notre provende, le jeu passé-présent. Donc j'ai essayé dans ce domaine de la chanson que vous connaissez si bien, Martin Penet, j'ai essayé de m'amuser, de m'éclater, comme diraient les plus jeunes.
Alors, Jean-Noël Jeanneney, vous allez nous expliquer comment vous avez choisi vos comédiens, chanteurs, qui interprètent vos chansons. Mais d'abord, on va les écouter dans ce titre « Laissez donc pleurer les garçons » et on va tous les entendre à tour de rôle.
Laissez donc pleurer les garçons, ne contraignez pas leur peine à se taire. Laissez donc pleurer les garçons, l'alarme est un baume au cœur solitaire. La première fois n'était pas la bonne. Au creux de ce bois, il n'y avait personne.
J'avais cru pourtant, quand le soir charbonne, au bord de l'étang, séduire Anémone.
Laissez donc pleurer les garçons, ne contraignez pas leur peine à se taire. Laissez donc pleurer les garçons. l'alarme est un baume au cœur solitaire. La deuxième fois, la nymphe jolie, d'un cœur aux abois, a fui la folie.
J'avais cru pourtant, pudeur abolie, sourire éclatant, séduire Amélie.
Laissez donc pleurer les garçons, ne contraignez pas leur peine à se taire. Laissez donc pleurer les garçons, l'alarme est un baume au cœur solitaire. La troisième fois, la lune ironique, surmontant son toit, rit de sa panique.
J'avais cru pourtant qu'elle m'était promise, patient trop longtemps, séduire Artémise. La dernière fois qu'on m'a fait faux bond, elle avait vers moi son regard profond. J'avais cru pourtant hors de mon cocon, farouche et ardent, séduire à l'ison. À vous aussi.
Laissez donc pleurer les garçons, ne contraignez pas leur peine à se taire.
C'était donc « Laissez pleurer les garçons », interprété successivement par François Martouret, François Morel, Sylvia Berger, sociétaire de la Comédie Française, et la plus jeune des chanteuses, Lucrèce Sacella, dans cette chanson écrite par Jean-Noël Jeanneney. Alors, vous nous avez expliqué comment vous avez fait la rencontre d'Antoine Salaire, le compositeur. Alors maintenant, j'aimerais savoir comment vous avez choisi vos interprètes.
Toujours la part du hasard, un hasard favorable. François Martouret, je le connaissais un peu. Je l'ai croisé dans une projection de cinéma. Nous avons conversé agréablement et je lui ai demandé ce qu'il était en train de faire. J'avais beaucoup de considération. Pour lui, c'est vraiment un comédien hors de pair. Il m'a dit, j'ai envie de faire des chansons. Je trouve qu'il est temps à mon âge. Et j'ai assez envie d'interpréter, nous en parlions la semaine dernière, Cosimon. Je lui ai dit, c'est très bien, c'est un personnage majeur, mais pourquoi vous ne m'interpréteriez pas plutôt moi-même? Pourquoi vous? Alors je lui ai dit que j'avais fait des paroles, il les a lues et je crois qu'il les a appréciées, donc il a eu envie de le faire. Une amie, d'autre part, nous a mis en contact avec Sylvia Berger, dont vous avez, je crois, admiré la voix tout à l'heure, sociétaire de la Comédie Française, qui comme beaucoup de comédiens contemporains, pratiquent à la fois la parole ordinaire et aussi la chanson, et qui nous a rejoints. Quant à Lucrèce Sacella, c'est la plus jeune, elle est d'un grand talent, elle est proche d'Antoine Salaire. Et tout ce petit groupe s'est constitué. Il y a un film de Sacha Guitry comme ça qui raconte comment progressivement un petit groupe se constitue. Eh bien, c'est ça qui s'est passé.
Et François Morel, naturellement, par Antoine Salaire.
François Morel, qui a bien voulu nous rejoindre. Oui. Et c'est pourquoi il me jouxte à votre micro, cher Martin Penney.
Alors, Jean-Noël Jeanneney, il est difficile de résumer en quelques mots un parcours aussi riche que le vôtre.
Courage.
Mais je vais tout de même essayer. Donc vous êtes agrégé d'histoire, pionnier de l'histoire culturelle et des médias. Vous vous intéressez à leur évolution, notamment sur Internet. Vous êtes également spécialiste de l'histoire politique. Vous avez été président de Radio France et de Radio France Internationale, président de la mission du bicentenaire de la Révolution française, par deux fois secrétaire d'État au début des années 1990. Enfin, président de la Bibliothèque nationale de France de 2002 à 2007. Alors, en ce qui concerne la radio, notre petit monde, vous êtes depuis 1999 producteur d'une émission hebdomadaire le samedi sur France Culture qui s'intitule « Concordance des temps », qui porte un regard historique sur l'actualité en rappelant des précédents, des épisodes et des mutations qui trouvent des résonances inattendues avec le présent. Et votre émission est toujours émaillée de quelques chansons de circonstance, habilement choisies dans le répertoire des 19e et 20e siècles, voire, pourquoi pas, du 21e. Et évidemment, cet amour de la chanson, il vient de loin quand même, je suppose.
Oui, il vient de loin, il vient de mon adolescence, il vient de cette ambiance musicale qui se constituait autour de nous, dans ma génération. Il y a d'abord la parole qui s'inscrit dans la mémoire, et puis il y a la rencontre entre un moment de sa propre histoire et ce qu'on entend, et ce qui s'accroche en fait au souvenir. Mais évidemment, comme historien, j'ai assez vite tâché de prendre du recul et de m'interroger non seulement sur ce que je pouvais avoir d'affinité, de connivence avec ces chansons, mais surtout ce qu'elles ont, elles, d'affinité avec l'histoire, avec la grande histoire. Et c'est ça qui, évidemment, m'a intéressé et qui a un peu nourri cet ensemble, même si seules 3 ou 4 des chansons sont vraiment ancrées dans le passé. Les autres sont peut-être un peu plus intemporelles, mais vous en jugerez mieux que moi.
Mais j'ai bien l'intention qu'on évoque ces deux aspects. Il se trouve que par ailleurs, vous avez été président des rencontres photographiques d'Arles de 2009 à 2015 et que vous êtes l'auteur d'une 50aine d'ouvrages sur l'histoire politique tout de même, l'histoire culturelle, des médias, d'une 12aine de documentaires, de 4 pièces de théâtre et finalement, donc en 2023, d'un livre de chansons dont nous parlons aujourd'hui.
Un aboutissement.
Vous le considérez comme tel ?
Non, je plaisante un peu, mais enfin, en tout cas un aspect que je ne néglige pas dans mes appétits de création, de rencontre, d'amitié aussi, parce que c'est une aventure d'amitié. Quand on écrit un livre, on est tout seul devant son ordinateur ou devant son papier. J'aime beaucoup au théâtre et dans cette aventure des chansons, le fait que c'est une petite équipe qui se constitue, où vraiment il circule beaucoup d'affection, de complicité au service de la création. Pour moi, ça, c'est sans prix.
François Morel ?
Les chansons sont nées avant l'écriture du livre ?
Les chansons sont nées séparément, les 18 chansons un peu complétées, enfin peut-être 15 ou 16, et puis d'autres sont nées comme ça, et ouais. Puis je me suis dit j'aimerais bien qu'on les mette en musique.
Le texte du livre, vous l'avez écrit parce que vous aviez écrit des chansons avant ?
Ah oui, c'est l'éditeur a pensé que le recueil des chansons, même si on y ajoutait les partitions, serait un peu maigre, ferait plutôt fascicule qu'ouvrage. Mmh. Et par conséquent, ils m'ont demandé, ce que j'ai fait très volontiers, une réflexion un peu longue, une sorte d'avant-propos développé sur les relations effectivement entre la chanson et l'histoire, et notamment entre la chanson et la politique, ce qui m'a donné l'occasion de réviser mes classiques, de lire les livres de Martin Pennet, c'est précieux, ouais. et en particulier et de m'intéresser à Béranger,
Béranger
qui me passionne.
Mais ça, on va y revenir, si vous voulez.
J'anticipe, excusez-moi.
Oui, un petit peu, mais c'est pas grave.
Je ne savais pas quel était votre plan, mon cher.
En tout cas, après le long format des essais ou du théâtre, vous vous êtes donc frotté au format très court des chansons, où l'on doit tout dire en 2, 3, voire 4 minutes. Et on sait bien que c'est un exercice difficile.
Je ne sais pas si c'est difficile, mais c'est très amusant à faire, très intéressant précisément.
La concision.
Il y a le fait aussi que la poésie contemporaine, au fond, a pris ses distances par rapport au rythme, par exemple, de l'alexandrin, et que la chanson, en revanche, garde ce rythme-là. Une des raisons pour lesquelles la poésie actuelle, qui est si riche de bien des côtés, est moins mémorisée, peut-être moins importante dans la vie culturelle, c'est précisément, je crois, parce qu'on ne peut pas l'apprendre facilement par cœur. On apprend plus facilement Aragon que René Char.
Alors vous avez, Jean-Noël Jeannet, vous avez respecté une métrique?
Oui, bien sûr. C'est plutôt les octosyllabes d'ailleurs. Enfin, ça dépend des cas, bien sûr. Puisqu'il s'agit de s'inscrire aussi dans les mémoires. Et donc, il est important effectivement de respecter, un, la métrique, et deux, les rimes. Et vous verrez qu'en gros, je crois que j'y suis à peu près parvenu. Et c'est en fait une sorte de précieux corset, c'est un corset fécond, si je puis dire. C'est une obligation de se plier à des règles et le fait qu'un sonnet à 14 verbes, il n'en a pas 15, il faut en tenir compte et ça a donné des chefs-d'œuvre et à un niveau infiniment plus modeste, le fait qu'on s'oblige à ces rimes, à ces couplets, à ces strophes, est en soi pour la réflexion, pour la création, je crois, un point de départ assez bon.
Le vieux monsieur du 63 était perdu dans ses pensées. Et j'y ai lu, non sans effroi, le poids trop lourd du temps passé. Le vieux monsieur du 63, fermant les yeux dans l'autobus, à la muette fut enfant roi, dans les caprices du toujours plus. Le vieux monsieur du 63, à l'alma traitant sans égard, une pauvre fille aux abois redevint étudiant paillard. Il crut devant le quai d'Orsay renaître diplomate adroit, au temps des espoirs trop parfaits. Retrouvant Saint-Germain-des-Prés, il fut à nouveau le bourgeois cherchant au flore la liberté. Il flottait autour de lui, hier accablant aujourd'hui. le vieux monsieur du 63, au carrefour de l'Odéon, songea qu'il était trop narquois quand il y brocardait Danton. Le vieux monsieur du 63, croisant le boulevard Saint-Michel, rejoignit les anciens et moi des défilés gais et rebelles. Il vit surgir place Maubert, les humanistes d'autrefois, livrés à leurs bourreaux pervers. Tout au long du jardin des plantes, rêvant d'un destin moins étroit, il eut pitié des bêtes souffrantes. Lorsqu'il arriva à Gare de Lyon, il parut emporter sur soi la douleur d'un regret sans fond. Il flottait autour de lui, hier accablant aujourd'hui. Le vieux monsieur du 63 était perdu dans ses pensées.
François Martouret dans Le vieux monsieur du 63, paroles de Jean-Noël Jeanneney, musique d'Antoine Salaire, donc publié récemment dans ce livre Chansons pour mémoire aux éditions des Équateurs. Et là, vous nous avez apporté, Jean-Noël Jeanneney, un CD.
Oui, il vient de sortir. Oui.
Parce qu'avant, on ne les trouvait que sur des plateformes, les titres, et maintenant...
Il y avait des QR codes. Alors, certains sont très familiers du système, mais d'autres qui étaient nos auditeurs potentiels ne s'y trouvaient pas. Alors, nous avons décidé, Antoine Salaire et moi, d'en faire un CD qui est maintenant disponible en ligne en particulier.
Eh bien, parce qu'un CD, c'est un album, c'est un concept, c'est un objet, il y a un livret. Enfin, moi, je trouve ça beaucoup mieux.
Oui, il y a un dialogue qui se entre l'objet et soi-même. En tout cas, c'est ce que nous avons rêvé de faire, de provoquer, de permettre.
Jean-Noël Jeanneney, ces chansons que vous avez signées, souvent personnelles, sont comme une promenade dans vos souvenirs ou dans notre inconscient collectif. D'ailleurs, vous comparez dans votre texte introductif la chanson à une forme de feuilleté temporelle.
Oui.
Une belle expression.
Oui, c'est une expression que le grand historien Le Goff, Jacques Le Goff, avait utilisée le premier et qui montrait que dans chaque conjoncture, qui est toujours spécifique, chaque moment... on peut discerner la rencontre de rythmes différents, de rythmes de temporalité. Il y a ce qui est l'immédiat, la surprise, le hasard que nous évoquions tout à l'heure. Il y a ce qui fonctionne plus lentement, il y a ce qui est générationnel. Nous l'éprouvions la semaine dernière en dialoguant avec François Morel, la proximité de nos souvenirs. Et puis, il y a le très long mouvement de ce qui bouge très lentement, les mentalités, etc. Et je pense qu'après tout, la chanson peut et doit refléter assez bien cette rencontre-là.
Jean-Noël Jeanneney, ces chansons, en tout cas, décrivent un parcours somme toute très parisien.
Ah oui, vous avez choisi le 63, c'est bien votre faute, c'est même plus parisienne de ces chansons. Oui, j'ai beaucoup pris le 63 dans ma vie, effectivement.
Il y a aussi le Jardin du Luxembourg qui est évoqué dans une chanson.
Ah oui, ça c'est quand j'étais au lycée Montaigne, effectivement, c'était juste à la sortie du lycée Montaigne, là où il y avait des abeilles, et c'est une chanson justement sur l'abeille et le rêve de l'adolescent qui a envie de prendre un peu de distance par rapport à ses leçons de latin.
Mais l'auto dans le sable est située très loin de Paris.
Oui. Et c'est celle que j'ai essayé de faire le plus mystérieuse et vous la chantez très très bien, justement avec Sylvia Berger, François Morel.
Et lorsque vous dites « je » dans les chansons Jean-Noël Jeanneney, c'est François Martouret qui incarne votre voix le plus souvent.
Je dis beaucoup « je ».
Ah bah, je recommencerai bien.
Ah oui, mais c'est un « je » qui est un « je » collectif, si je puis dire. Nous recommencerions bien. Oui, effectivement, « je », oui, bien sûr. C'est un thème, effectivement, sur... la nostalgie de ce qui a été, qui ne sera plus et qu'on aimerait éventuellement voir renaître, mais pas forcément.
Et alors, la question que je me posais en écoutant ce genre de chanson, c'est est-ce que chez vous, la mémoire est une nostalgie de la jeunesse ?
Pas du tout. J'ai toujours essayé et réussi assez bien à être heureux à chaque moment. La seule chose irritante, c'est que ça doit s'arrêter un moment. Vous voyez, vous parliez de mon émission, j'en ai fait un quart de siècle, je considère que je suis à mi-chemin, mais dans un quart de siècle, je serais obligé de m'arrêter. Et je voyais l'autre jour ce que disait Victor Hugo, ça n'a pas grand rapport avec nos chansons, encore que. Il disait, ce n'est pas de mourir qui est un problème, c'est de ne plus vivre qui est insupportable. Alors c'est vrai que peut-être cette idée-là est sous-jacente à un certain nombre de ces chansons sur le mystère du temps qui passe, sur le rythme de ce qu'est la mémoire, avec bien sûr de l'allégresse parfois pour ressusciter des souvenirs et du chagrin, puisque ce dont il parle a disparu.
France Musique, Tour de chant, Martin Penet.
Les jeux de la plage, parcourus de rire, parmi les ballons de quelques gamins, venant renverser nos châteaux de sable. Je recommencerai bien. Le temps des émois, celui des soupirs, des désirs confus encore enfantins, des bonheurs rêvés encore improbables. Je recommencerai bien. Le premier baiser qu'elle laissa cueillir et la découverte qu'à ses yeux mutins une maladresse était désirable. Je recommencerai bien. Adolescent sûr de son avenir, les conversations d'amitié sans fin pour refaire un monde qui soit équitable. Je recommencerai bien. Vaste projet voulant définir un futur exempt du moindre chagrin, sans que le présent jamais nous accable. Je recommencerai bien. Les élans soudains gourmands de partir au hasard des ports en ne sachant rien, d'ailleurs inconnus au goût ineffable. Je recommencerai bien.
Jean-Noël Jeannonet, je recommencerai bien. Ce sont vos paroles interprétées par François Martouret. Et finalement, on pourrait tous se dire la même chose.
Si vous le dites, oui, je pense aussi, je pense. D'ailleurs, j'ai emprunté ce titre au livre de souvenirs dans un genre tout à fait différent du journaliste Jean Ferniaud, qui avait appelé ça comme ses mémoires de la sorte. J'ai écrit à son fils pour savoir s'il consentait à ce que je reprenne ce titre. Il m'a dit oui avec beaucoup de générosité. Cette chanson et le livre sont assez différents.
Qu'est-ce qu'il chante bien aussi, François Martouret. Moi, j'aurais envie qu'il fasse un récital. Ça serait magnifique. Moi, j'adore sa voix. Il y a une puissance d'évocation incroyable dans son interprétation.
Je suis content que vous le reconnaissiez comme tel. Il a pris des leçons, d'ailleurs. Il nous a dit avec modestie qu'il avait pris des leçons.
Je sais pas, c'est on a le même professeur.
Ah oui, c'est merveilleuse.
Raymond de Viret.
Un peu âgé.
Raymond de Viret, qui on vient de fêter les 100 ans.
C'est ce que j'ai compris.
C'est merveilleux, ça.
Elle est un très bon pédagogue, une très bonne pédagogue.
Elle est merveilleuse, oui.
En tout cas, effectivement, Martouret, je suis très heureux qu'il puisse ainsi déployer, après une carrière prestigieuse, ce nouveau talent.
J'ai écouté ces chansons-là en voiture avec mon fils la semaine dernière.
Il faut transmettre aux générations qui viennent, je vous en remercie.
Et il était persuadé que c'était des chansons classiques et qu'il avait déjà entendu notamment « Laissez donc pleurer les garçons ». Il était sûr que c'était une chanson qu'il connaissait depuis toujours.
On a le droit de prendre ça comme un hommage ?
Moi, je trouve. Bah oui.
Oui, oui.
Et François Morel, vous pourriez lui confier certaines de vos chansons à François Martouret, peut-être ?
J'adorerais. Je serais très fier. Oui, bien sûr. J'aimerais bien. Quand j'entends ce genre de chanson, je recommencerai bien. Je me dis, c'est exactement ça que j'aime dans la chanson. J'ai plutôt la réputation d'être un rigolo. Mais dans le fond, moi, ce qui m'émeut, c'est la chanson nostalgique, la chanson du regret, la chanson justement historique, comme ça, quoi. Et à chaque fois que je fais un spectacle, je m'oblige à mettre aussi des chansons un peu drôles, un peu légères. Mais pour moi, la chanson, c'est vraiment l'expression de cette merveilleuse nostalgie, quoi.
Il y a aussi, effectivement, du Prime Sautier, je me permets de le dire, dans ce recueil, un peu de distance.
On va en entendre. D'ailleurs,
alors, je ne vais pas anticiper sur le plan, cher Martin Pennet, que vous avez dressé.
Toutes ces musiques sont d'Antoine Salaire. Comment s'est passé le travail avec lui ?
Je lui ai apporté les textes. Il a travaillé seul. Nous sommes rejoints. Il a joué sur son piano. Ensuite, il a fait venir les chanteurs potentiels dans son appartement. Et je lui ai fait quelques remarques éventuelles. Peu d'ailleurs, parce que ça m'a plu tout de suite. Ils m'ont demandé de changer quelques adjectifs. Parfois, ils trouvaient que c'était un peu trop précieux, mais j'ai pas accepté de trop en rabattre sur l'imparfait du subjonctif. Je trouve qu'il faut garder son style, chacun son style. Et après tout, c'est la nature même de ces chansons. Et finalement, ça leur a bien convenu. Mais c'était la première fois que je travaillais comme ça, en quelque sorte, sur pièce. Et c'était très, très, très amusant. J'ai un peu changé quelques rimes ou quelques mots qu'ils trouvaient trop difficiles. Mais enfin, ils ont gardé un certain nombre de mots, hein.
Oui, la plupart, il me semble.
Oui, oui, la plupart. La plupart, oui.
En quelque sorte, vous élevez un petit peu le niveau, là.
J'ai pas cette prétention, mais j'ai envie de dire coruscant. Je dis coruscant au Bilvaisais, et puis après tout, personne ne m'en empêchera. Et apparemment, pas le musicien.
Alors, on va retrouver François Martouret avec Sylvia Berger, dans un duo que je trouve formidable, Amour en quinconce. Et là, j'adore la trouvaille poétique et tout ce que ça véhicule comme idée qui nous parle à tous, parce que dans le fond, on a tous eu des relations plus ou moins compliquées, forcément, à un moment dans sa vie.
Et des chances ratées.
Moi qui te vis passer au loin, toi qui ne t'en doutais guère, moi qui ne savais pas que faire, toi n'ayant de moi nul besoin, moi aussitôt fort attentif, toi pour qui j'étais transparent, moi qui jouais l'indifférent, et toi du coup piqué au vif.
Moi revenant vers ta tendresse, toi marquant qu'il était trop tard, moi détournant donc mon regard, toi chargeant le tien de caresses.
Nous aurons donc vécu notre amour en quinconce. Nous aurons donc vécu notre amour en quinconce.
Moi peu à peu y répondant, toi entre-temps séduite ailleurs, moi perdu, blessé, implorant, toi qui dispersais tes faveurs,
moi retrouvant ma liberté, toi regrettant la chance enfuie, moi drapé dans ma dignité, toi te croyant dur, aguerri.
Nous aurons donc vécu notre amour en quinconce. Nous aurons donc vécu notre amour en quinconce.
L'amour en quinconce, comment ça vous est venu cette idée, Jean-Noël Jeannet?
Vous savez, vous, Martin Pennet, comment arrive une idée? Un soir, ou un matin, je ne sais plus, il m'a paru intéressant d'évoquer ces cas que la littérature et parfois la mémoire personnelle vous propose, c'est-à-dire des occasions manquées. Chacun était à la mauvaise place psychologiquement, et voilà, c'est tout, je ne peux pas en dire davantage.
En tout cas, le rythme de tango choisi par Antoine Soler, c'est particulièrement approprié, je
trouve. Oui, alors tout ça a été évidemment enregistré en studio après coup, et avec, il faut tout de même citer les noms de la violoncelliste, que je trouve excellente, Chloé Giraudon, et d'enregistrement et mixage qui sont dus à Simon Blévis. Comme c'est une aventure collective, je tiens à les évoquer et assister pour moi à cet enregistrement, c'était un plaisir supplémentaire. Je me taisais en général, une fois ou deux, j'ai fait une petite observation sur un hiatus qui n'était pas observé.
Là, je vous reconnais bien, là.
Si vous le dites.
Non, mais il faut être rigoureux, vous avez raison. Il faut être garant de la bonne expression.
Oui, on en a la tâche, chaque fois qu'on dispose, quel privilège d'un micro devant soi, et vous en savez quelque chose.
Et vous n'êtes pas ancien président de la BNF pour rien, cher Jean-Noël Jeannet.
Je vous laisse le dire. En tout cas, je crois en effet qu'on a une responsabilité. Quand on peut manier le vocabulaire et la syntaxe devant beaucoup de gens, on a une responsabilité. C'est tout. Je ne me gargarise pas et je n'en fais pas. Je ne suis pas solennel à cet égard, mais il y a quelque chose comme ça. Et les chroniques de François Morel me paraissent en témoigner chaque vendredi.
À propos d'idylle, comme l'amour en quinconce, une de vos chansons évoque un moyen de communication bien oublié, Jean-Noël Jeannet. Il s'agit des pneumatiques ou les petits bleus. Alors moi, personnellement, j'en ai pas vraiment le souvenir, mais j'en ai déjà consulté parfois dans des archives, des correspondances personnelles. Parfois, on tombe sur des petits bleus, comme
vous
ça.
Vous n'avez pas fait. Certes, vous vous targuez d'un bien faible avantage et vous faites sonner terriblement votre âge. Parce que moi, oui. Moi, oui. Ce que de plus que vous l'on en pourrait avoir n'est pas d'un si grand cas pour cent ans prévaloir. Mon cher Martin, moi, effectivement, j'ai connu les derniers pneumatiques et l'émotion que cela représentait d'aller à la poste pour le donner et de savoir qu'ils étaient projetés par le souffle à l'intérieur des tuyaux d'un bout à l'autre, qu'ils arrivaient, etc. Et c'est ce que je raconte. En m'inspirant d'ailleurs aussi d'un film fameux de François Truffaut, où Jean-Pierre Léo court derrière le son pneumatique pour arriver chez Delphine Seyrig.
Alors, ce qu'il faut rappeler, donc, c'est que il y avait tout un réseau de tuyaux et air comprimé qui passaient dans les égouts de Paris, qui rejoignaient les bureaux de poste les uns avec les autres, et ça permettait d'avoir des communications extrêmement rapides pour des messages vraiment urgents.
Oui, il y a un petit bleu qui a joué d'ailleurs un rôle très important au début de l'affaire Dreyfus. Le petit bleu, hein, c'est-à-dire le pneumatique en fait. Oui. Alors là encore, on trouve une certaine nostalgie de fait, avec de la tendresse, mais pas de brutalité, c'est le moins que je puisse dire.
Mais alors ça a duré jusqu'en quelle année? Ça, début des années 60?
Je pense que ça a dû être à peu près, jusqu'à ouais. ce moment-là. C'est un point d'histoire qu'il faut vérifier en sortant.
Effectivement, bon, maintenant à l'ère d'Internet, on est dans une telle instantanéité que le petit bleu paraît désuet, mais il a beaucoup de charme finalement. Et vous le rappelez donc dans cette chanson, interprétée par Lucrèce Sacella et Sylvia Berger.
Nous les aimions tant, nos bleus pneumatiques, à la poste vide de toute émotion. Un préposé triste et automatique, sans lever un œil sur notre passion. Et notre visage sombre et romantique saisissait la lettre sans autre précaution. Nous les aimions tant, nos bleus pneumatiques, l'homme indifférent à notre cœur épris. Les roulait devant nous dans des tubes antiques, avant qu'un grand souffle ardent et hardi emporte le message d'un désir pudique, d'un seul coup, d'un seul, à travers Paris. Nous les aimions tant, nos bleus pneumatiques, nous nous figurions leur trajet puissant. Cylindre de cuivre aux destins épiques, chargé de conduire immanquablement les mots d'un projet d'amour frénétique, au pied d'une belle, aux yeux captivants. Nous les aimions tant, nos bleus pneumatiques, un coursier d'hôtel accueillait le facteur. Nous l'imaginions vif et un peu sceptique, curieux cependant d'ennumer l'odeur. Glissant au liftier le pli fatidique, afin qu'il l'élève jusqu'au pur bonheur. Nous les aimions tant, nos bleus pneumatiques, le garçon d'étage en un bruit soyeux glissait sous la porte l'objet fatidique, puis l'on discernait le son merveilleux d'un accent très tendre et très exotique, quelques mots surpris et déjà joyeux. Nous les aimions tant, nos bleus pneumatiques, car ces éclaireurs portaient notre espoir à l'extrémité d'un chemin magique, quand la porte ouverte laissait entrevoir en complicité discrète et pudique, le papier froissé au coin du boudoir.
Le film de Truffaut s'appelait Baiser volé. C'est le film auquel je faisais allusion avec la scène magnifique du pneumatique qui traverse Paris.
Et que vous évoquez, Jean-Noël Jeanneney, dans cette chanson qui nous plonge déjà un peu dans l'histoire, et nous allons plonger de plus en plus, car dans vos chansons, celles qui figurent dans cet ouvrage « Chansons pour mémoire », on trouve de nombreuses références historiques ou littéraires, ou les deux. Je pense à Gustave Flaubert avec le Cato Blepas, cet animal mythique, myope et stupide qui mange ses pattes et qui vous permet de brosser en somme une métaphore de la société.
C'est dans la Tentation de Saint-Antoine de Flaubert, oui.
Oui. Et pourquoi convoquer une telle référence?
Parce qu'elle m'est venue spontanément, que cet animal m'a toujours intéressé. Puisque vous avez dit que j'étais responsable de cette maison, j'ai eu à l'invoquer, voici bien longtemps, lorsque nous avons créé les nouvelles radios locales publiques à France Inter, un peu à France Musique et France Culture, mais surtout à France Inter, on s'est inquiété qu'on prenne les ressources possibles de France Inter au profit de celle-ci. Et donc on accusait la présidence de manger ses propres pattes. Et c'est là que j'ai évoqué Flaubert et Cato Blepas. Ça a un peu surpris au début, puis Cato Blepas est devenu assez, assez familier au syndicat et au personnel de cette maison.
Sans vouloir vous offenser, cher Jean-Noël Jeannonnet, est-ce que vous ne craignez pas, hormis le cénacle des syndicats de Radio France, est-ce que vous ne craignez pas, avec ce genre de chansons, un certain hermétisme vis-à-vis du large public que peut-être vous visez également ?
Ah ben, certaines chansons sont un peu hermétiques, mais il faut conquérir le public. Et après tout, je ne crois pas que l'on soit, quand on se livre à ce genre d'exercice, écrire des chansons. On n'est pas obligé de courir vers la banalité. Après tout, si le public en veut, je les sors d'Ardard. S'il n'en veut pas, je les remets dans ma guitare. On citait Brassens tout à l'heure. Je lui demande, à titre posthume, de me servir d'appui.
Bien. C'est une excellente réponse. Alors, c'est aussi un historien que vous avez signé la plupart de ses chansons. Et vous montrez une appétence, il me semble, pour le 19e siècle en particulier, voire même la fin du 18e, et vous rendez un hommage particulier au philosophe Charles Fourier.
Oui, c'est un grand socialiste utopiste, comme on le disait, c'est un des grands personnages, avec Proudhon, avec Considérant. On rejoint d'ailleurs la Franche-Comté d'Antoine Salaire et la mienne, qui a beaucoup pesé dans la sensibilité du moment. Le fourierisme était un mouvement notable et il a été marqué par une capacité d'imagination allant jusqu'au farfelu, qui reste aujourd'hui empreint à la fois de force poétique et de vitalité politique. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans les formes tout à fait particulière de la chanson. J'ai eu envie, en effet, de faire cette ode à Fourier. J'ai repris là, d'ailleurs, une expression que déjà André Breton avait eue. Vous voyez que j'ai été audacieux.
France Musique, tour de chant, Martin Penney.
Je pense à toi, Charles Fourier, dont nous aurions tant besoin. Tu refusas tous les sentiers battus des tristes philistins. Tu énuméras les passions sans les brimer ni les blâmer, animant au mieux leurs tensions, honorant leur fécondité. Tu inventas le phalanstère où chacun vivrait à son gré, refusant les règles austères qu'impose la normalité. Je pense à toi, Charles Fourier, dont nous aurions tant besoin. Tu refusas tous les sentiers battus des tristes philistins. Tu reconnus la composite, art de mêler hier et demain, les grands talents qui habitent la tête, le corps et la main. Tu découvris la papillonne, par quoi chaque âme allègrement, mi-fidèle, mi-polissonne, zigzag très librement. Tu célébras la kabbaliste en promouvant comme vertu l'ardeur joyeusement égoïste des rivalités bienvenues. Je pense à toi, Charles Fourier, dont nous aurions tant besoin. Tu refusas tous les sentiers battus des tristes philistins.
Vous voyez, Jean-Noël Jeannonnet, quand je disais que lorsque vous disiez « je » dans une chanson, c'est François Martouret qui est votre interprète, en somme.
Eh bien, je ne le savais pas, mais je ne vous reproche pas de le mettre en lumière.
François Morel ?
Est-ce que c'est vous, d'ailleurs, qui avez fait le casting, c'est-à-dire en disant « cette chanson-là, ce serait bien qu'elle soit chantée par Sylvia Berger et cette autre par Lucrèce Sacella ?»
Pas du tout. C'est vraiment, je m'en suis remis à Antoine Salaire, et j'ai trouvé que ses choix étaient excellents, et je me suis dit que j'avais bien fait de lui faire cette confiance, c'est pas la seule.
Jean-Noël Jeannonnet, dans votre livre « Chansons pour mémoire », on trouve une longue introduction en forme d'essai que vous avez intitulé « Variations sur l'histoire et sur la chanson ». Vous expliquez, entre autres, la trop lente prise en compte de la chanson par les historiens, et vous soulignez pourtant la capacité de la chanson à toucher les différents niveaux d'une société. Ça, c'est quand même une notion qui me paraît fondamentale.
Oui, C'est aussi un des motifs pour lesquels on ne peut que, comme citoyen et comme historien, qu'apprécier la chanson. Et c'est vrai que...
Et comment expliquez-vous justement qu'elle est un peu dédaignée, peut-être un peu moins aujourd'hui encore, par les chercheurs ?
Disons que l'histoire universitaire, pendant un certain nombre de générations, a été un peu guindée, au point qu'un très bon historien, Henri-Irénée Maroux, qui s'intéressait beaucoup à la chanson, avant-guerre et après la guerre, quand il en a fait un livre, a cru bon de prendre un pseudonyme. Il s'est appelé D'Avançon.
Henri D'Avançon.
Oui, Henri D'Avançon. À vrai dire, aujourd'hui, je n'ai pas cru devoir prendre un pseudonyme. C'est parce que notre profession s'est beaucoup ouverte à la fois à des sujets nouveaux, l'histoire des sensibilités, l'histoire des passions, l'histoire de tout ce qui circule dans une société, que désormais, tout cela ne paraît pas du tout incongru à la jeune génération des historiens. Et en vérité, je crois que c'est un élément de l'histoire affective, d'histoire des sentiments, d'histoire des mentalités, qui est aujourd'hui un champ d'études absolument passionnant. Il y a un grand historien qui s'appelle Alain Corbin qui a ouvert du côté de toutes les sensibilités, la vue, la parole,
l'odorat,
bien sûr, les miasmes, et qui a ouvert des champs tout à fait nouveaux. Donc, je crois qu'Henri D'Avançon, aujourd'hui, aurait continué de s'appeler Henri Maroux. Et en même temps, c'est pas seulement le plaisir d'en parler, de goûter ces chansons, c'est aussi parce que je crois qu'on trouve là des clés d'interprétation et d'explication de beaucoup de conflits. Et c'est pourquoi, précisément, il m'a intéressé dans cette longue introduction sur histoire, politique et chansons, il m'a intéressé de considérer le cas vraiment passionnant de Béranger.
J'allais y venir parce que vous lui réservez vraiment une place significative. Béranger, membre du célèbre caveau de la rue de Bussy, qui fut une figure majeure de la vie artistique, mais aussi politique, de la première moitié du XIXe siècle, et dont les chansons ont eu une popularité, une postérité considérable. On a du mal à imaginer ça aujourd'hui.
Plus la popularité que la postérité, pardon, parce que précisément, la faiblesse de la postérité est intéressante.
Si ce n'est qu'il a quand même été enregistré tout au long du XXe siècle par une jolie galerie d'interprètes, notamment féminines, que je vais citer: Odette Dulac, Pierre Bertin, Roger Bourdin, Yvette Guilbert, Caroline Claire, Cora Vauquer, Michel Bernard, parmi les dernières, pour ne citer que les principaux, mais la principale fut certainement Germaine Montero,
oui,
qui lui a consacré tout un album 33 tours en 1955 avec 10 chansons. Et parmi celles-ci, cette chanson écrite en 1830, à mes amis devenus ministres, et je sais que vous l'aimez particulièrement.
Ça, c'est après la révolution de juillet, lorsque les idées libérales ont paru triompher un moment, et où ses amis, Thiers, les autres, sont devenus effectivement membres du gouvernement. Il prend ses distances. C'est à la fois une attitude spontanée et aussi un calcul, je crois, par rapport à son propre public, de demeurer populaire.
Mais il a même apparemment refusé l'Académie française, bien que sollicité par Sainte-Beuve et Chateaubriand. Et il a été élu, malgré lui, ça c'est un peu plus tard, député de la Seine en 1848, et il a dû envoyer deux fois de suite sa démission au président de l'Assemblée pour qu'elle soit acceptée. Et il a déclaré à ce moment-là « Je ne suis qu'un chansonnier, je veux mourir chansonnier ».
Il y avait une part de coquetterie, et en même temps on trouve des textes incroyables avec le recul de Chateaubriand et d'autres, disant c'est le plus grand, de Michelet aussi, c'est le plus grand poète du siècle quasiment, devançant encore ceux que nous chérissons le plus aujourd'hui. Et tout de même, malgré cette pléiade, cette litanie de très bonnes chanteuses que vous avez évoquées, le contraste entre la notoriété de Béranger au XXe siècle, le XXIe siècle, et celle dont il jouissait en son temps, est tout de même très frappant.
Non, mes amis, non, je ne veux rien être, semés ailleurs, place, titres et croix. Non, pour les cours, Dieu ne m'a pas fait naître, oiseau craintif, je fuis la glu des rois. Que me faut-il, maîtresse à fine taille, petit repas et joyeux entretien, de mon berceau près de bénir la paille, en me créant, Dieu m'a dit ne sois rien. De mon berceau près de bénir la paille, en me créant, Dieu m'a dit ne sois rien. Un sort brillant serait chose importune pour moi, rimeur qui vit de temps perdu. M'est-il tombé des miettes de fortune? Tout bas je dis, ce pain ne m'est pas dû. Quel artisan, pauvre hélas, quoi qu'il fasse, n'a plus que moi droit à ce peu de bien. Sans trop rougir, fouillons dans ma besace, en me créant, Dieu m'a dit ne sois rien. sans trop rougir, fouillons dans ma besace, en me créant, Dieu m'a dit ne sois rien.
Germaine Montero, à mes amis devenus ministres, chanson de Béranger.
Quel bel hommage, il lui rend de fait. On aperçoit tous les ressorts de son efficacité, parfois un peu madrée, dans la manière d'organiser sa notoriété, ses rapports avec les pouvoirs. Mais on comprend pourquoi il a été si célèbre, pourquoi il était sur toutes les lèvres. J'ai relevé, en particulier dans les mémoires de Garibaldi, vous savez, le héros des deux mondes, le grand homme de l'unité italienne, un récit assez frappant. Il est jeune, il est dans une taverne dans le Midi. Et on comprend qu'il est italien, on n'aime pas ce qu'il représente, on veut lui faire un mauvais parti. Et à ce moment-là, il se lève et il se met à chanter Béranger, une fameuse chanson sur Dieu qui avait beaucoup indigné les pouvoirs en place. Et du même coup, ce public, qui est plutôt contestataire apparemment, lui fait un triomphe, il l'accompagne. Il raconte dans ses mémoires à quel point il est redevable à Béranger qui lui a sauvé quasiment la vie.
Bel hommage, hein. Oui. Mais c'est vrai que Béranger a été connu jusqu'en Russie. Enfin,
c'est même un lieu où il a été célébré le plus longtemps. Car Lénine était allé écouter l'interprétation de ses chansons quand il était à Paris avant la guerre de 14. Et Staline a voulu encore qu'on fête le 150e ou 175e anniversaire de la mort, je ne sais pas, vous calculerez, c'était vers 1932. À Moscou, on a célébré le souvenir de Béranger à une époque où, franchement, en dépit des chanteurs ou chanteuses que vous évoquez, assez peu de gens prononçaient son nom. Il y a un autre aspect intéressant. En France notamment, oui, en France, bien sûr. Un autre aspect qui est évidemment le fait qu'il apparaissait comme dangereux au pouvoir en place, puisqu'il était notamment sous la monarchie de Juillet, avant 1830, notamment avant 1830, il apparaissait comme pouvant aider les mouvements subversifs contre la monarchie.
Et il a même fait de la prison.
Oui, il a fait de la prison, il en a tiré une gloire supplémentaire. La prison était assez douce pour les littérateurs à ce moment-là. Et surtout, il y a eu un procès tout à fait intéressant dont je raconte les composantes dans cette introduction, parce qu'on va vraiment s'affronter deux idées fortes de ce que doit être la liberté de la chanson en face des pouvoirs publics. Et le procureur général qui attaque Béranger explique, dans une langue magnifique, mais un peu résignée, il explique que malheureusement, la chanson n'arrive vraiment jamais à la réprimer. Parce qu'elle continue avec une fausse légèreté à voguer partout. C'est le mode de contestation qui lui paraît le plus dangereux. On peut saisir les livres, interdire des pièces de théâtre. La chanson, c'est extrêmement difficile. Et naturellement, l'avocat de Béranger, le célèbre Dupin, qui a fait une grande carrière ensuite sous la monarchie de Juillet, Dupin explique qu'il s'en félicite. Et il dit cette chose assez juste, que quand on essaye de brider la chanson comme un torrent, en réalité, on la renforce. Car on l'aide à se disperser partout. Et qu'elle garde son pouvoir subversif dans les moments difficiles. Ça a été vrai encore en France, au moment de la guerre d'Algérie, par exemple. On pourrait prendre cet exemple. Les derniers moments où on a vraiment censuré les chansons. Ou dans cette...
La chanson de Boris Vian.
Boris Vian, bien sûr. Oui, oui. Le déserteur, qui a été interdit. Les chansons de Brassens aussi, qui apparaissaient comme trop anarchiques, trop antipatriotiques.
Il y avait une situation politique précise sur l'éventail politique, Béranger.
L'Empire, il était relativement prudent, il était dans le caveau, comme vous dites. Sous la monarchie de Juillet, Louis XVIII et Charles X, il a pris des positions assez audacieuses dans ses chansons, ironiques, et déjà pré-napoléoniennes, puisqu'il y a une fameuse chanson de lui où il raconte comment est née la légende napoléonienne.
Vous savez, c'est
Napoléon. Oui, Napoléon passe quelque part et une paysanne le voit venir, il entre, et ce sont les petits-enfants de la dame qui lui disent...
T'en souviens-tu, grand-mère ?
Voilà.
Voici Nicole Verville en 1960.
On parlera de sa gloire sous le chaume bien longtemps. L'humble toit dans 50 ans ne connaîtra plus d'autre histoire. Là viendront les villageois dire alors à quelques vieilles par des récits d'autrefois, mère abrégée, notre veille. Bien dit-on qu'il nous est nuit, le peuple le révère, oui, le révère. Parlez-nous de lui, grand-mère, grand-mère, parlez-nous de lui. Parlez-nous de lui, grand-mère, grand-mère, parlez-nous de lui.
Donc il est à la fois un ressort d'un certain nombre de sentiments collectifs, un reflet bien sûr, et puis en même temps il est tellement enraciné dans son temps qu'il devient plus désuet que d'autres. Après, vous voyez qu'on joue toujours avec une réflexion sur les temporalités qui m'intéresse tellement lorsque on réfléchit à la chanson et que parfois on s'essaye à en produire.
Donc c'est une chanson qui a été créée en 1830.
Et qui a contribué à la légende napoléonienne et d'une certaine façon au retour de Napoléon III. Napoléon le Petit, quand il a fait son coup d'État, quand il a été élu président de la République en 1948 et quand il a fait son coup d'État en 1951. Mais si vous me lancez sur Béranger, je pourrais être intarissable, donc je me hâte de me taire.
Dans vos chansons pour mémoire, Jean-Noël Jeanneney, vous évoquez des épisodes historiques parfois piquants, comme la première girafe qui est arrivée à Paris en 1826. Il s'agissait d'un cadeau diplomatique offert au roi Charles X par Mehemet Ali, qui était alors vice-roi en Égypte ottomane. Et cette girafe a vécu 18 ans au Jardin des Plantes et fut surtout pendant plusieurs années une des principales attractions de la capitale. C'est pour ça qu'elle est restée célèbre.
Et célibataire, la pauvre.
Eh oui.
Ça a posé un problème de transport, vous comprenez bien, puisque arrivant à Marseille, il fallait qu'elle puisse rejoindre Paris pour être montrée au roi et à la population. Or, on ne pouvait pas la transporter par train, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de charroi qui permettait la conduire. Et donc, elle a marché à pied et derrière, on voyait courir les savants, Geoffroy Saint-Hilaire et les autres, très inquiets que tout à coup, elle eut un rhume ou qu'elle se trouva en situation difficile au point de vue sanitaire et qu'elle mourut avant. Donc, ils étaient très contents d'arriver. Donc, je raconte tout ça sur un mode, en effet, qui s'efforce d'être badin.
Oui. Cette girafe a pris plus tard le surnom de Zarafa et elle est ici chantée par...
Je voulais ajouter une chose, c'est que c'est la première des chansons qui a été interprétée et de façon qui nous a touchés à Sceaux, parce qu'il y a eu une exposition sur la girafe, quelqu'un a signalé notre chanson et elle a été chantée par tous les enfants qui l'ont apprise. Et j'ai un petit film dans mon téléphone où on les voit 120 qui chantent cette chanson avec tous les mots difficiles qui sont là. J'ai évidemment trouvé ça très touchant.
Donc cette chanson a été enregistrée par Sylvia Berger sur le CD que vous nous avez apporté, Jean-Noël Jeanneney, pour célébrer en quelque sorte cette fameuse girafe qui a reçu plus tard le surnom de Zarafa.
Il n'était point de girafe dans la France de ce temps-là. Certains seulement la rêvaient au monomotapa. Hors miracle, elle apparut, on la dénomma Zarafa, sur les rives de Marseille où elle débarqua. Il fallait gagner Paris afin que le roi la fêtât. Mais nul charroi ne pouvait porter cet échalas. C'est ainsi que sur la route, sans se plaindre, elle marcha, souveraine et dégingandée, fière de son éclat. Les savants couraient derrière, observant chacun de ses pas, dans l'angoisse que sa santé soudain se dégrada. Au long du chemin, la foule venait applaudir son exploit. La peau rousse, la petite tête, perchée au bout d'un mât. Elle devint populaire et la mode s'en empara. Avec élégance et noblesse, très digne, elle l'assuma. Les dames voulurent une coiffure verticale qui l'imita. Et les hommes des cols très hauts, quel qu'en fut l'embarras. Sur carafes et tabatières, sa silhouette figura. Et l'on vit un lampadaire tel qu'elle à l'opéra. Elle est morte célibataire, en juste hommage on l'empailla. Allez donc au Jardin des Plantes, saluez Zarafa.
C'était donc l'évocation de cette fameuse girafe qu'on avait un peu oubliée, mais grâce à vous, Jean-Noël Jeanneney, elle revient dans les mémoires. Autre épisode historique fameux, la mort du président Félix Faure.
Je me demandais si vous vous échapperiez à cette tentation de donner cette chanson.
Dans les bras de sa maîtresse au palais présidentiel en 1899 à l'âge de 58 ans. Alors en fait, on se souvient de lui majoritairement pour ça. Or, c'était quand même aussi un président de la République qui a eu son rôle et qui était un républicain modéré, qui était surnommé le président soleil à cause de son goût du faste et de l'élégance vestimentaire. Et son mandat a été marqué par le rapprochement franco-russe et aussi par l'affaire Dreyfus.
Il était malheureusement pour lui anti-Dreyfusard.
C'est pas ce que j'ai lu.
Eh bien, on vérifiera après l'émission.
J'ai lu qu'il avait fini par admettre qu'il était innocent.
Peut-être. En tout cas, c'est vrai que c'est assez tragique pour une personnalité de se dire que tout son trajet dans la mémoire collective se réduit à l'instant ultime de sa mort, sous des regards évidemment un peu goguenards. C'est peut-être la seule chanson quelque peu leste de mon répertoire.
Mais il en faut une, toujours.
Mais il en fallait une, bien sûr.
Et donc, elle est chantée par Sylvia Berger.
Président Félix Faure, on vous a calomnié parce qu'un soir à l'Élysée, dans les bras d'une belle, au charme déployé, vous donnâtes à Vénus votre ultime pensée. Dès lors, votre parcours fut caricaturé, réduisant votre destinée au seul soupir final d'un bonheur concentré dans l'épectase ultime d'un tendre sigisbée. Post-mortem, vous fournîtes à tous les chansonniers, à leur verve spécialisée, dans les clins d'œil paillards et les lubricités, une source infinie d'allusions débridées. Avait-il donc sa connaissance interrogée, ingénument par une bonne fée? Un huissier répondit avec naïveté qu'on l'avait fait s'enfuir par une porte dérobée.
Voilà, le souvenir du président Félix Faure, évoqué dans cette chanson, l'Est, effectivement. Enfin, c'est l'histoire qui est l'Est, hein, Jean-Noël Jeannonnet.
Merci de me dédouaner.
On a l'impression, en entendant cette chanson, que vous avez un peu envie de le réhabiliter.
Non, j'ai envie de faire sourire et à propos d'un épisode qui, effectivement, a marqué à l'époque et qui a été largement utilisé par les chansonniers, comme je l'écris.
En tout cas, ces anecdotes et beaucoup d'autres, c'est ce que vous vous plaisez à rappeler dans votre émission Concordance des temps, tous les samedis sur France Culture, Jean-Noël Jeannonnet. Et je rappelle la parution de votre livre, Chansons pour mémoire, aux éditions des Équateurs, et donc maintenant d'un CD qui contient toutes les chansons du livre. 18 titres au total.
On se le procure aisément en ligne, comme on dit.
Alors, on va mettre tous les renseignements sur le site de l'émission, ce sera le plus simple. Et je rappelle également la parution du tome 2 de vos mémoires, Le Rocher de Sustaine, il y a un an, au Seuil. Vous évoquez notamment la période où vous étiez président de Radio France.
Oui, effectivement, et par conséquent la musique et les orchestres et mes relations avec votre chaîne.
Et François Morel, je rappelle que La Scala vous offre une carte blanche du 14 mai au 23 juin prochain pour une reprise de 3 de vos spectacles, Tous les marins sont des chanteurs, puis Le dictionnaire amoureux de l'inutile, et enfin J'ai des doutes, en hommage donc à Raymond Devos. Et tout ça, c'est en partenariat avec France Inter. Merci à tous les deux d'être venus au micro de Tour de Chant.
Merci.
C'était un plaisir de partager ce moment d'amitié et de chanson.
Le plaisir a été aussi le mien.
Pareil, pas mieux.
À bientôt. Tour de chant, une émission de Martin Penet, avec le concours de Dorothée Goll à la préparation, Manuel Couturier à la technique, Dorian Zénine à la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.